Ce journal est présenté par Élise Thibault.
Bonsoir à tous. Une journée chaude sur le terrain social en France. Quatrième journée d'action contre la loi travail. Des centaines de milliers de manifestants ont battu le pavé. Les cortèges ont plusieurs fois dégénéré en violence dans des grandes villes, avec des blessés chez les manifestants et les policiers. Pendant ce temps, syndicats et patrons étaient réunis pour une nouvelle séance de négociation sur l'assurance chômage. Au menu, les intermittents, la surtaxation des CDD et beaucoup de crispations. Nous tenterons de faire le point avec notre invité ce soir, Jean Cerutti, en charge de ces négociations pour le MEDEF. Nous irons ensuite en Syrie, où Alep est plus isolé que jamais. Les rebelles s'attendent à l'assaut prochain des forces du régime. Et puis en Turquie, où deux journalistes ont été condamnés pour la publication de caricatures du prophète. Une mobilisation en baisse aujourd'hui pour les opposants à la loi travail. Quatrième journée d'action en l'espace de 2 mois, à 5 jours de la présentation du texte à l'Assemblée nationale. Ils étaient 170 000 partout en France, selon la police, 500 000 selon les syndicats qui appelaient à descendre dans la rue. Bastien de Senin s'est glissé dans le cortège parisien.
C'est toujours la même expression qui revient dans le cortège. Aucune négociation, aucun amendement, c'est le projet de loi en entier qui doit être supprimé. Éric a participé à tous les rassemblements, il est très remonté.
D'abord, c'est inadmissible, même si c'était un gouvernement de droite. Et en plus, c'est un gouvernement qui se dit socialiste. Il y en a marre d'être considéré comme des esclaves. Voilà, je pense qu'on va nous remettre les chaînes aux pieds. On nous dit que cette loi, elle est très bien pour pouvoir embaucher. Mais c'est n'importe quoi, parce que les gens qui nous disent ça, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils savent pas ce que c'est que Pôle emploi, envoyer des CV, d'avoir aucune réponse, ils veulent toujours faire du profit sur nous.
Pour une quatrième manifestation en moins de 2 mois, la grosse question tournait autour de la mobilisation, en baisse, et notamment chez les étudiants, mais pas de quoi inquiéter David.
Il y a les examens, il y a des gens qui ont des thèses à rendre, les lycéens et les lycéennes qui ont leur bac blanc, qui ont leur bac, et c'est aussi les vacances. Donc c'est assez compliqué de mobiliser en ce moment, c'est pas pour ça que dans le monde du travail et dans le monde des étudiants, on est plus favorable à la loi qu'avant.
Une contestation qui se transforme donc avec, en plus des rendez-vous comme celui d'aujourd'hui, une sorte de mouvement de fond qui pourrait faire bouger les choses pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.
On a connu des gouvernements qui étaient dans cette posture et qui au final ont retiré leur projet de loi. Donc voilà, la mobilisation elle continue et notre exigence reste la même. Il y a beaucoup de grèves dans les entreprises, on ne les voit pas dans la rue ces grèves-là. Il y a d'autres journées d'action en perspective, vous voyez qu'on est déterminé.
La prochaine journée ce sera évidemment ce dimanche 1er mai avec des rassemblements et des défilés communs entre les syndicats. Ensuite ce sera le 3 mai, jour du début de l'examen du texte à l'Assemblée, avec là encore des rassemblements près du Palais Bourbon pour interpeller les députés.
Et beaucoup de cortèges aujourd'hui se sont terminés par des débordements. À Paris, un policier en civil a été grièvement blessé. À Nantes, Lyon, Marseille, de violents affrontements ont éclaté. À Rennes, un jeune manifestant a été blessé à l'œil. Une enquête est ouverte pour savoir s'il a été victime d'un tir de flashball. Convergence des luttes, convergence des actualités aussi. C'est aujourd'hui que s'ouvrait la négociation UNEDIC sur l'assurance chômage. Elle regroupe les organisations patronales et syndicales. L'accord sur le régime des intermittents a été, lui, trouvé la nuit dernière. Encore faut-il qu'il soit validé par tous les partenaires, notamment le MEDEF, qui avait demandé une économie de 185 millions d'euros, qui n'a pas été respectée. Notre invité ce soir est Jean Cerutti. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en charge des négociations assurance chômage pour le MEDEF. Une première question sur cet accord trouvé la nuit dernière pour les intermittents du spectacle. Il ne respecte pas la lettre de cadrage du MEDEF. Est-ce que votre organisation va quand même le signer ?
On a passé 3h30 en séance aujourd'hui avec les négociateurs, dont les 6 négociateurs qui avaient signé la lettre de cadrage que vous évoquez. Et pas une seule fois le mot d'intermittent n'a été prononcé aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça n'était pas dans le calendrier de nos négociations. Donc il faut faire les choses dans l'ordre et nous les ferons dans l'ordre.
Alors justement, sur la négociation globale, le patronat est arrivé avec déjà des premières pistes qu'on a connues aujourd'hui. Parmi ces pistes, notamment la proposition de faire disparaître la logique du un jour cotisé égale un jour indemnisé. Pour les syndicats, c'est de la provocation. Est-ce que c'est des bases saines pour commencer une discussion, une négociation, la provocation ?
Alors, nous avons remis un document écrit qui a été envoyé avant-hier et qui a préciser un certain nombre de propositions que nous avions faites déjà lors de notre réunion du 7 avril. Et ce que vous évoquez sur, comme étant la remise en cause du un jour pour un jour, c'est pas une remise en cause dans l'absolu. C'est le fait de considérer que dans son rôle d'assurance, l'assurance chômage pouvait prendre en compte la situation éventuellement évolutive du risque de chômage. Et donc cette éventuelle modification de la règle du un jour pour un jour serait faite en fonction du taux de chômage constaté sur les deux trimestres précédents. C'est-à-dire que si la situation du chômage se détériorait par rapport au un peu plus de 10% qu'on constate aujourd'hui, on irait vers une durée d'indemnisation qui serait supérieure au un jour pour un jour. A contrario, dans le cas que nous espérons où les conditions économiques s'améliorent et où du coup le risque de chômage diminue et qu'on passe par exemple en dessous de 9% de taux de chômage globalement sur deux trimestres, à ce moment-là on envisagerait effectivement le fait d'avoir 0,9 jours indemnisés pour un jour cotisé. Donc ça n'est pas évidemment un raisonnement dans l'absolu, c'est un raisonnement d'appui sur l'évolution des conditions économiques réelles constatées.
Et vous comprenez que pour les syndicats, certaines de vos propositions sonnent comme des provocations, notamment pour les plus de 50 ans, retirer la logique de 3 années d'indemnité pour redescendre à 2 années d'indemnité. Vous comprenez que ça puisse passer pour une provocation ?
Je comprendrais si on la résumait à ce que vous venez de faire, mais ce n'est pas le cas. L'idée est qu'au niveau des seniors, un, on est bien obligé de prendre en compte les données d'évolution de la durée des carrières et donc de l'âge de l'accès aux retraites. Et la barrière des 50 ans n'a pas bougé depuis assez longtemps. Donc notre souhait était de faire évoluer cette situation et de le faire évoluer sur deux plans. D'une part, effectivement, reporter un peu plus loin le passage de 24 mois d'indemnisation maximum à 36 mois d'indemnisation maximum, mais aussi de mettre en place une vraie priorité de formation à partir de 50 ans. Et donc, on a fait des propositions détaillées sur ces deux plans-là. Donc, il y a un ensemble de propositions assez concrètes qu'on n'a pas pu aborder d'ailleurs aujourd'hui en termes d'échanges, mais qui étaient effectivement dans le document que vous avez évoqué tout à l'heure. On a considéré que ça ferait partie du début de notre ordre du jour de la prochaine réunion, si elle se tient.
Si elle se tient, c'est-à-dire ?
On a eu l'occasion d'évoquer le fait qu'on était un peu dans une période d'expectative, puisque les différentes organisations patronales ont exprimé à l'issue du débat sur la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale un certain nombre d'oppositions aux évolutions de la loi El Khomri. Pour ce qui me concerne, moi, en tant que négociateur, le fait de voir à nouveau une irruption des politiques dans la négociation, quand on a parlé de taxation des contrats courts, on nous aura fait beaucoup de choses en tant que négociateur. Et donc, cette fameuse référence légale à la taxation des contrats courts, qui est la 3e ou 4e intervention du politique.
C'est ce qu'a proposé effectivement le gouvernement, de surtaxer les CDD et donc les entreprises qui en abusent. Pour vous, c'est la ligne rouge à ne pas franchir ?
On a en tout cas considéré que le gouvernement n'était pas dans son rôle vis-à-vis de l'assurance chômage. À nouveau, une négociation, c'est pas quelque chose de très simple. Tous ces sujets-là sont des sujets qui sont sur la table, qui sont depuis le début et sur lesquels les négociateurs ont travaillé, vont travailler, mais ils le font à leur rythme et en tout cas pas sous le coup d'obligations successives telles qu'elles ont été exprimées maintenant depuis 3 ou 4 mois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai trouvé révélateur le fait qu'aucun négociateur aujourd'hui n'ait prononcé le mot intermittent. Ça veut bien dire que tous les négociateurs autour de la table considèrent que les choses doivent venir en leur temps et en tout cas pas telles qu'on tente de nous les imposer.
Merci Jean Cerutti, négociateur assurance chômage pour le MEDEF, d'avoir accepté l'invitation de France Culture.
Bonsoir, merci.
Pour boucler ce dossier chômage, les intermittents qui étaient installés depuis dimanche dans le théâtre de l'Odéon ont été évacués il y a quelques minutes maintenant par la police. Ils réclamaient de rester dans le lieu jusqu'à la fin des négociations de l'UNEDIC. Et pendant que le climat social s'échauffe en métropole, Manuel Valls est arrivé, lui, en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Le Premier ministre doit évoquer la tenue d'un référendum sur l'autodétermination dans les 2 prochaines années, prévu par les accords de Nouméa. Mais Manuel Valls n'est pas complètement absent de la politique hexagonale. 10 pages d'interview lui sont consacrées dans le magazine Society qui sort demain matin en kiosque. Le Premier ministre y fait son mea culpa à Gérard Mohamed. Dès les premières lignes de cette interview, il l'avoue, j'ai et nous avons une part de responsabilité. Responsabilité dans le fait que l'on n'a pas agi suffisamment avec le souci de la vérité et de la transparence. Le Premier ministre revient ainsi sur la défiance des Français vis-à-vis des politiques, notamment à travers le mouvement Nuit Debout. Mais à culpa aussi sur la loi travail, le gouvernement a manqué d'un temps de discussion avec les partenaires sociaux, avoue-t-il. Des erreurs qui sinon, pour la plupart, interviennent au début du mandat de François Hollande, quand Manuel Valls n'était pas encore Premier ministre, évidemment. Mais trêve de pardon, le chef du gouvernement veut avancer avec un objectif en tête, remobiliser les troupes à gauche en vue de la présidentielle l'an prochain. Elle doit se dépasser, s'adresser à tous les Français, affirme-t-il. D'autant plus qu'au Parti Socialiste, le temps presse. Aujourd'hui, une partie de ses membres ne cache plus ses craintes. Pour certains, l'hypothèse d'un François Hollande qui ne se représente pas faute de popularité et de résultats devient possible. Et dans ce cas-là, Manuel Valls est l'une des alternatives. Sauf que depuis quelques semaine, on parle aussi d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie lui a volé la vedette en créant son propre mouvement politique En Marche. Alors quand les journalistes de Society lui demandent s'il n'a pas l'impression de se faire grignoter des parts de marché, Manuel Valls répond qu'il ne fera pas de procès à Macron. En revanche, il ajoute qu'il ne peut pas y avoir dans l'équipe gouvernementale ceux qui sont à la tâche tous les jours pour la réussite du quinquennat et ceux qui ont un autre agenda.
Analyse signée Agera Mohamed, un médecin accusé d'avoir menti sous serment pour la première fois. Le Sénat a saisi la justice pour que cet homme soit jugé. Il avait comparu devant une commission pour évoquer le coût de la pollution sur la santé publique. C'était l'an dernier. À l'époque, ce médecin, Michel Aubier, jure n'avoir aucun lien d'intérêt. Et pourtant, l'homme est conseiller santé du groupe Total et touche jusqu'à 50 000 euros chaque année depuis près de 20 ans pour ce poste. Il risque jusque 5 ans de prison pour ce mensonge sous serment. Le cessez-le-feu syrien est désormais enterré. Depuis une semaine maintenant, la ville d'Alep est sous un déluge de feux. Régime comme rebelles ne respectent plus les termes de la trêve. L'armée régulière de Bachar el-Assad se prépare à un assaut dans la zone d'Alep, encore contrôlée par les rebelles. Omar Waman a pu joindre des habitants de cette ville.
Depuis une semaine, la partie d'Alep contrôlée par les rebelles est soumise à des bombardements incessants, des frappes qui visent les marchés, les immeubles d'habitation et les hôpitaux, comme celles qui ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Rami est un citoyen journaliste joint via Skype depuis Alep.
Il y a eu plusieurs frappes aériennes dans la ville. L'une d'entre elles a visé l'hôpital Al-Quds au niveau de l'entrée. L'hôpital a été totalement détruit. Il y a de très nombreux morts et blessés. Et parmi les victimes, il y a un pédiatre, le tout dernier médecin pour enfants. Il est décédé dans le bombardement. Désormais, nous n'avons plus de pédiatre à Alep. Il s'appelait Vassim Moaz.
Pris au piège dans ce territoire enclavé, les habitants d'Alep ont perdu tout espoir.
C'est un massacre quotidien. Rien qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons compté près de 40 bombardements dans plusieurs quartiers. La frontière avec la Turquie est fermée. Nous avons donc le sentiment de vivre dans une prison. Les gens fuient les bombes, mais ne savent pas où aller. Ils vont d'un endroit à un autre. Nous avons été abandonnés par la communauté internationale, par l'Europe. Le monde entier s'est détourné de nous.
Une recrudescence de violence qui n'épargne pas les zones tenues par le régime de Bachar el-Assad, où les mortiers tirés par les rebelles ont causé la mort de 49 personnes ces derniers jours.
Omar Waman, depuis Beyrouth, ce soir, Ban Ki-moon condamne l'attaque contre l'hôpital d'Alep, jugée inexcusable. Le secrétaire des Nations Unies ajoute que la justice doit être faite pour ces crimes. Eux comptent faire appel de leur condamnation. 2 années de prison pour 2 journalistes turcs. Ils sont condamnés pour blasphème pour avoir publié des caricatures de Mahomet. Une semaine après les attentats de Charlie Hebdo à Paris, le quotidien laïque dans lequel il travaille était le seul dans ce pays à majorité musulmane à bien vouloir publier ses dessins. Alexandre Billette.
Un coup dur contre la liberté de la presse et d'expression. C'est ce que dit la une du site internet du quotidien Cumhuriyet après la décision d'une cour d'Istanbul qui condamne donc à 2 ans de prison ferme les 2 journalistes, Hikmet Çetinkaya et Ceyda Karan. En janvier 2015, une semaine après l'attaque contre le journal satirique, le quotidien Cumhuriyet avait décidé de reproduire certaines caricatures du numéro spécial de Charlie Hebdo sans publier le dessin de une représentant le prophète. Mais les 2 journalistes avaient décidé, eux, d'insérer ce dessin dans leur chronique par solidarité avec Charlie Hebdo. La suite ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, la justice était saisie pour incitation à la haine et insulte aux valeurs religieuses. Les deux chroniques interdites de diffusion. Le président Recep Tayyip Erdogan avait alors parlé d'insultes et le premier ministre Ahmet Davutoğlu de provocation. Aujourd'hui donc, la Cour a prononcé leur condamnation. Les journalistes ont immédiatement indiqué qu'ils feraient appel. « Nous ne laisserons pas ce pays aux mains des fascistes », a écrit sur son compte Twitter l'une des deux journalistes condamnées.
La météo de demain après-midi, le nord et l'ouest sera sous la pluie. Il y aura du soleil partout ailleurs. Les températures grimpent un peu, de 9 à 14 degrés dans le nord, 15 à 20 dans la moitié sud.